quotidien avec Hélène Denis.
Là, je sens la déception dans les cuisines d'entendre ma voix quand c'est Hélène Denis qui a été annoncée.
Mais vous devriez entendre la déception de mon côté aussi. Pas que Hélène ne soit pas là, mais que voilà.
Alors, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Une chance que Isabelle Falardeau va être là pour soutenir notre effort. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, on va commencer comme on commence d'habitude. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes mercredi 9 juillet. Encore une super belle journée. Je pense que c'est copié-collé d'hier. Hier soir, moi, je me suis promené dans le coin du parc Laurier. Et il y avait plein de monde sur le gazon qui prenait le temps.
Est-ce qu'il y avait encore beaucoup de... Parce que c'est un parc qui est très connu pour leur barbecue improvisé.
Ouais, non, pas tant. J'ai pas trouvé.
Tant mieux.
Mais il y avait vraiment beaucoup de monde d'un âge beaucoup plus jeune que le mien. J'ai fait monter la moyenne d'âge en me promenant là. Mais ça, c'est l'été. C'est comme ça que ça devrait être. Alors, on recommence ça aujourd'hui. Ça devrait être une très belle journée. Alors, si vous voulez profiter de l'extérieur, aucun problème. À l'émission d'aujourd'hui, on va se promener un peu, vous allez voir. Il y a quelque temps, à l'émission 5e édition, j'ai parlé avec quelqu'un. Le quelqu'un en question s'appelle Stéphane Hébert, qui partait de Vancouver à vélo pour faire le parcours Vancouver-Montréal pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. Alors, je le suis sur Facebook. Il est présentement dans un village qui s'appelle Marathon, en Ontario. Et je l'ai rejoint hier. Alors, on va se parler tantôt, en direct. Alors, en direct de Marathon, c'est rien, c'est pas rien. Et pour les nostalgiques de 5e édition, je parle aussi avec Francine Forgère aujourd'hui. On va parler de technologie. Et non seulement on parle de technologie, mais on va parler d'histoire. Bonjour Isabelle, vous allez nous parler des casse-croûtes.
Ben oui, en fait, c'est l'histoire des casse-croûtes au Québec. Vous allez voir, là, on part de loin, on part en 1894, donc je mêle vraiment l'histoire à ma chronique alimentation aujourd'hui. Puis on se concentre sur le Québec, beaucoup la ville de Québec, là, mais on fait quand même un petit peu le tour du Québec.
Ah, mais il y avait des casse-croûtes en 1884?
Mais oui, mais ça s'appelait pas des casse-croûtes.
Ah, OK, vous gardez le suspense, je le sens.
Voilà.
En plus de sentir la graisse des frites. Et vous allez m'en vouloir pour la chanson du jour parce que vous allez l'avoir dans la tête toute la journée.
3, 4. Demi-lande de haine, n'ont rien changé. شوب لحب الحب والمجد تقع الصدقة
Quelle collaboration entre Ariane Moffat, Karim Ouellet, excusez-moi, et La Bronze pour cette chanson « Aimons-nous ».
Et oui, c'est un verre d'oreille, mais c'est quand même un verre d'oreille plutôt plaisant.
Oui.
N'est-ce pas? Dans les unes ce matin, hier, je vous disais que c'était des unes d'été parce qu'il n'y avait pas de une qui se répétait. Alors aujourd'hui, il y a une majeure qui se répète partout. Et je ne sais pas, moi, si c'est une qui me plaît tant que ça. Vraiment. On parle de l'arrestation de quatre jeunes hommes, quatre militaires québécois soupçonnés de terrorisme qui ont comparu à la Cour de Québec. On parle de quatre hommes de la région de Québec, dont deux membres actifs des Forces armées canadiennes, qui font face à plusieurs chefs d'accusation en lien avec leur implication dans des activités terroristes qualifiées, entre guillemets, d'extrémistes violents à caractère idéologique par la Gendarmerie royale du Canada. Des allégations très exagérées selon le père d'un des accusés qui s'est confié, encore secoué, au journal Le Devoir. Alors, on parle de Marc-Aurel Chabot. C'est son père, c'est Yves Chabot qui s'est exprimé. Simon Angé Audet, Raphaël Lagacé et Matthew Forbes, qui ont tous comparu de manière virtuelle au Palais de justice de Québec hier après-midi. Les trois premiers accusés prévoyaient créer une milice anti-gouvernementale, selon les informations communiquées par la GRC. Ils sont accusés d'avoir facilité une activité terroriste ainsi que de possession de plusieurs armes à feu et explosifs prohibés. Et si vous regardez sur la page 1 du Journal de Montréal, vous avez des très grandes photos. On parle de 11 000 munitions, 130 chargeurs, 83 armes à feu, 16 engins explosifs. Et M. Yves Chabot, le père de Marc-Aurel, rejette en bloc l'idée que son fils ait voulu prendre les armes contre le gouvernement. Il mentionne, attendez, je vais tourner la page, que souvent, c'est des jeunes qui aiment les armes, qui aiment s'entraîner, qui se réunissaient à certains endroits pour le plaisir de faire ça dans des lieux sécuritaires, et lui, il rejette en bloc les prétentions qu'il ait voulu faire du terrorisme. Alors, c'est une nouvelle qui est dans les trois grands journaux de Montréal. Voilà, c'est dit, mais je ne sais pas comment réagir par rapport à cette nouvelle-là, honnêtement. Du côté du Devoir, des coops d'habitation sous surveillance. Alors, on sait comment c'est difficile la situation du logement partout au Québec. Alors, des organismes aident plusieurs établissements du Québec à corriger leurs lacunes administratives. On parle ici de fraude, mauvaise gestion, négligence dans la transmission d'informations financières au gouvernement et manque d'entretien des bâtiments qui sont autant de problèmes qui ont été ciblés dans diverses coopératives. Et des coopératives, c'est vraiment, ça devient vraiment important dans le contexte. Alors, je pense que c'est fort important de bien suivre leur progression. Alors, il y aurait plus d'une trentaine de coopératives d'habitation à l'échelle du Québec qui sont aux prises avec des problèmes de gestion ou des tensions internes, qui font actuellement l'objet d'un suivi serré de la part d'une série d'organisations qui tentent d'éviter que celles-ci ne perdent leur statut. Le 30 janvier dernier, Le Devoir publiait une enquête portant sur des lacunes dans le processus de sélection des membres louant des logements dans certaines coopératives de la province. Le lendemain, la Confédération québécoise des coopératives d'habitation annonçait la création d'un comité consultatif destiné à se pencher sur des pratiques inclusives et les enjeux de discrimination dans cet écosystème de logements abordables dont plusieurs sont subventionnés par l'État. Résultat, on est en train d'accompagner 34 coopératives. Celles-ci ont été ciblées en raison du risque que les failles qui ont été décelées ne mènent ces établissements à perdre le statut qui leur permet d'offrir des loyers abordables à leurs locataires en échange de leur participation à la gestion et à l'entretien des lieux, qui est expliqué dans l'article. Alors, ça, par contre, personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est préoccupant. Parce que dans la situation actuelle, les coops d'habitation, c'est une planche de salut pour plusieurs personnes. D'ailleurs, je vous fais mention que dans la presse, dans un autre ordre d'idée, mais toujours dans le marché locatif, sous la plume de Marie-Ève Fournier dans le cahier Affaires, on parle de deux réalités qui cohabitent à Montréal. Et j'ai lu dernièrement plusieurs articles sur des tours assez luxueuses qui ouvrent leur logement à Montréal. Et certains pensent que des gens qui ont les moyens pourraient accéder à ces logements-là en laissant des logements plus abordables disponibles. Mais ça prend du temps avant que ce ruissellement se matérialise. C'est un peu le sujet de l'article de Marie-Ève Fournier dans la presse. Est-ce que c'est la fin des bagages de cabine? L'Union européenne veut les rendre de nouveau gratuits sur tous les vols. Il y a une tendance dernièrement que les billets d'avion restent au même niveau de prix, mais il y a plein d'autres... on paye pour plein d'autres choses, ce qui fait que le voyage devient plus dispendieux. Alors, choix de siège, bagages de cabine, repas à bord... Ces services, autrefois inclus dans le prix d'un billet d'avion, sont désormais facturés en supplément par une majorité de transporteurs aériens, une tendance que l'Union européenne cherche à freiner en proposant de rendre les bagages de cabine gratuits sur tous les vols. Ce virage réglementaire pourrait-il traverser l'Atlantique et s'appliquer également au Canada, où les frais accessoires se sont multipliés dernièrement dans l'aviation commerciale? Et on dit dans l'article, entre autres, que c'est les tendances des prix en aviation viennent souvent de l'Europe, étant donné probablement la concentration des pays. Et je termine les unes avec une qui me fait de la peine. C'est dans la presse. On parle du restaurant Jérôme Ferrer Européa. On dit « la face cachée d'une étoile ». On parle d'insultes répétées, de violences physiques, de sexisme. Une vingtaine d'artisans de la gastronomie qui sont passés par la cuisine de l'établissement nouvellement étoilé par Michelin décrivent un climat toxique qui s'étire sur deux décennies. Jérôme Ferrer et ses deux associés nient toute conduite condamnable. Et quand on regarde dans l'article, c'est le premier article dans la Presse Plus, il y a plusieurs onglets, dont un onglet qui s'appelle « Rigueur, plaisir et mise en garde ». Donc, il y a des nuances dans cette image-là qui est un peu drôlement présentée en page 1. Je pense que ça vaut la peine de lire les différents onglets pour se faire une idée de cette situation-là. J'espère que c'est plus nuancé que le titre qu'il y en avait au début. Isabelle Falardeau, je pense pas que vous allez parler de l'Européa dans votre chronique.
Non, effectivement, on est dans une toute autre gamme d'offres alimentaires avec les cantines, les casse-croûtes du Québec. Mm-hmm. C'est un article qui a été écrit par Camille G. Jobin, qui est technicienne en documentation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est une collaboration spéciale avec le Journal de Québec, là où j'ai trouvé l'article. Mm-hmm. Et comme c'est quelqu'un de BINQ qui écrit l'article, il y a une très longue bibliographie à la fin. Je sais pas si vous allez lire l'article. Ouais. C'est rare qu'on voit ça dans un article du Journal de Québec. C'est un article qui est accompagné de nombreuses photos. Je ne vais pas toutes vous les décrire parce qu'en gros, c'est vraiment des photos de vieilles cantines, de camions tirés par des chevaux, avec des noms de cantines dessus. Il y en a au Québec, à Coaticook, Montréal. On voit l'intérieur des cantines, les anciens comptoirs avec les sièges peu à la
vintage,
là, qu'on a encore aujourd'hui, mais qui sont de plus en plus rares, donc les sièges en vinyle, ces choses-là.
Oui, oui, la peau colle là-dessus quand il fait chaud.
Oui, c'est ça, exactement, si on reste trop longtemps. C'était peut-être voulu, pour pas qu'on reste trop longtemps, je ne sais pas. Mais c'est ça, donc c'est un article qui nous raconte vraiment l'histoire des casse-croûtes québécois, marqueurs du paysage québécois, hein, qui font incontestablement partie de notre culture. Et auquel on doit notre mets national, j'ai pas besoin de vous dire lequel.
on cherche présentement.
Mais ce dont je vous parle, c'est vraiment bien, bien avant la poutine. Mm-hmm. Donc, on commence par nous parler du fait que c'était le repas des travailleurs. Hein, au 19e siècle, je vous avais dit qu'on allait commencer en 1894, il y a des établissements qui offraient des repas rapides qui sont apparus graduellement dans les villes. À Québec, on trouvait des petites cabanes sur les places du marché. Il y en a une à proximité du marché Champlain qui se trouvait au bord des quais, suspendue au-dessus de l'eau. Selon Jean-Marie Lebel, qui est auteur de Table d'hier et d'aujourd'hui, deux siècles de restauration à Québec, qui est un des livres en bibliographie de l'article, on y servait des repas à la minute. Donc, un repas servi en une minute, et de la petite bière à un sou le verre. Donc, on est loin de notre
c'est du fast-food
d'aujourd'hui.
C'est le début du fast-food.
Mais un journaliste rapporte quand même que la provenance des mets y était parfois douteuse. Alors, c'est pas nécessairement garanti que vous alliez avoir une très bonne digestion. On nous parle de... Pourquoi je vous dis 1894? Parce qu'en 1894, ça a été la première exposition provinciale. Ça, c'est un peu... on avait des expositions agricoles partout dans le Québec et à Québec, on a démarré l'exposition provinciale qui se tenait, elle, à la fin de l'été et les agriculteurs pouvaient participer à des concours là, pour les plus belles vaches, les plus belles récoltes, des choses comme ça. Donc, il y avait eu des concours régionaux dans les différentes villes du Québec et là, à la fin de l'été, c'était à Québec et ça a continué pendant plusieurs années. C'est un site qui a... Ça, c'était pas dans l'article, mais j'étais curieuse, donc je suis allée voir un peu plus en détail. Là. L'exposition provinciale, c'est sur le site où on retrouve le Colisée de Québec aujourd'hui. Le Colisée de Québec, c'était anciennement un hippodrome qui était sur ce site-là, qui faisait partie du site de l'exposition provinciale. C'est un grand site où il y avait des expositions. Il y a encore... en ce moment, là, sur ce même site-là, il y a la place le Grand Marché de Québec, le Centre de foire de Québec.
C'est drôle, ça. Moi, j'ai vécu dans l'Outaouais, puis à Ottawa, ils ont comme le même genre d'infrastructure. Puis maintenant, c'est autour du parc Lansdowne où il y a les matchs de football.
Ah, ben c'est ça. Donc, si jamais vous êtes curieux, ça s'appelle Expo Cité aujourd'hui, là, toute cette partie-là de Québec. Donc, c'est ça, à l'exposition provinciale de 1894, qui était la première, une cantine temporaire avait été installée devant le manège militaire pour servir les visiteurs. Et le restaurant JT Le Vallée vendait des repas à toute heure, en plus de cigares. Donc, on peut aussi fumer le cigare dans cette petite cantine-là.
Pas des cigares au chou, là, hein?
Ah, pardon?
C'est pas des cigares au chou.
Pas des cigares au chou, non. Les vrais cigares qu'on peut fumer et qui empestent, selon certaines personnes. Et donc, ce type d'installation qu'on retrouvait dans les expositions, les foires et les fêtes foraines va devenir un incontournable. Au tournant du 20e siècle, donc là, on est quand même 100 ans plus tard, on retrouve ce genre d'établissement dans les quartiers ouvriers. Et là, on les appelait pas encore cantine ou casse-croûte, mais plutôt quick lunch, light lunch, pork and beans ou débit de fèves au lard. Parce que oui, c'est pas des frites, des hamburgers et des poutines qu'on trouvait à l'époque, mais plutôt des fèves au lard, des soupes au pois, des pâtés chinois, vraiment des mets canadiens inspirés de la cuisine de chantier.
Des choses robustes.
Voilà. Et c'était des commerces d'appoint qui servaient la clientèle donc du quartier où elle s'installait, mais qui faisaient aussi l'objet de surveillance policière parce qu'on y vendait également de l'alcool. L'OCC, c'était les premières cantines. L'industrialisation et le travail en usine ont entraîné des nouveaux besoins en ce qui concernait l'alimentation dans la ville. Les chantiers et les camps de bûcherons possédaient des cantines, mais les usines n'offraient pas ce genre de service à leurs employés. Et c'est donc comme ça qu'ils sont apparus les premières cantines mobiles. Donc, principalement, c'était des roulottes tirées par des chevaux, les ancêtres des camions-restaurants ou food trucks, comme on dirait à l'Académie française, qui s'installent donc ces camions-là, tirés par ces roulottes, à la sortie des usines et offrent des repas chauds peu coûteux et servis rapidement. On dit que dans les années 1940, il y avait près de 200 cantines mobiles qui étaient encore en activité à Montréal. Et un quart d'entre elles était encore tiré par des chevaux. Mais puisque les employés doivent préparer la nourriture et s'occuper des chevaux, eh bien, peut-être que vous pouvez le deviner, mais il y a eu des problèmes d'hygiène et de salubrité. Et ça serait pour ça qu'en 1947, la vente de nourriture et de boissons sur la voie publique a été abolie à Montréal. Et par la suite, les autres villes l'ont assez rapidement suivi, les autres villes de la province. Et c'est un règlement qui a été maintenu jusqu'au retour de la cuisine de rue. Comme vous le savez, si vous habitez dans la région de Montréal, c'est pas très, très vieux. Là. Ça fait seulement depuis 2015 que c'est revenu à Montréal et 2017 à Québec. Donc, ça a été quand même un très grand, très long hiatus, là, de 1947 à 2015. Les établissements, par contre, c'est ça qui s'étaient installés de façon permanente sur des terrains privés. Il y avait certaines roulottes là, qui s'étaient installées sur des terrains privés. J'en ai parlé un peu dans ma chronique sur les cantines. Il y avait deux cantines de Shawinigan, entre autres, là, qui étaient à la base des roulottes tirées par des chevaux, mais qui s'étaient installées sur des terrains privés. Donc, elles, ces cantines-là, vont en profiter pour moderniser leurs installations. Installer les commodités de base, eau courante, électricité, toilettes. Et il y en a qui vont s'intégrer à d'autres commerces comme des épiceries ou des stations de service. Mais il y en a plusieurs qui vont rester vraiment très modestes et ça devient quand même des lieux de rencontre qui vont tailler leur place dans la culture populaire du Québec. À partir des années 1920, il y a aussi l'influence américaine qui se fait sentir et c'est là qu'on va commencer à servir des mets moins traditionnellement québécois. Donc, nos cantines vont embrasser l'influence du Sud et se transformer en snack bar à l'américaine avec les publicités de Coca-Cola, les menus qui vont maintenant offrir des hot dogs, des hamburgers, des milkshakes, etc. C'est pas toujours vu d'un bon œil, hein, cette américanisation-là. Le ministère de la Voirie et plus tard le ministère de l'Agriculture vont faire pression pour promouvoir des mets régionaux. Avec le soutien de la presse et du clergé catholique, ils vont aussi mener un combat pour stopper l'anglicisation des panneaux d'affichage. Bon, on pourrait dire stopper, pas empêcher que ça devienne anglais, parce qu'on parlait déjà, hein, on l'avait dit tantôt, le de Quick Lunch, c'était pas mal tout en anglais, les noms.
Oui, oui.
Mais là, on commence à mener le combat pour la francisation. Donc, c'est ça, à partir de 1949, il y a un nouveau service chargé de la réglementation des affiches le long des routes qui est créé au sein du ministère de la Voirie. Ça a un peu aussi un lien avec ça. Donc, les affiches qu'on voit maintenant en bord de route. Pardon?
En 1949?
Bon, en 1949, c'est qu'il y a un nouveau service qui va réglementer les affiches le long des routes. Ah, bon, je suis sûr, ça, évidemment, on n'en parle pas dans l'article. La réglementation a changé au fil du temps. Maintenant, on a certaines choses qu'on n'a pas le droit d'afficher là, sur le bord des routes. Ensuite, on nous parle donc de l'essor de la voiture, hein, parce qu'au début, on se déplaçait à cheval. Après ça, on a commencé à se déplacer en voiture, surtout dans l'après-guerre. En 1944, le gouvernement fédéral instaure l'Office canadien de tourisme et deux ans plus tard, le Québec se dote d'un office provincial de publicité qui va probablement devenir l'Office du tourisme aussi. Et donc, ça coïncide aussi avec la démocratisation du tourisme et l'accès de la classe moyenne à la société des loisirs. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont les moyens de prendre des vacances. de voyager en voiture. Et là, c'est là que les motels et les casse-croûtes vont se multiplier à la bord des routes, dans des endroits stratégiques là, où on va pouvoir s'arrêter pour manger. La période de l'âge d'or, on parle de la période qui s'étale de 1950 à 1980. Donc ça, ça a arrêté l'âge d'or des casse-croûtes. Il y a eu une réelle montée en popularité et c'est là qu'ils ont vraiment commencé à faire partie du paysage québécois, offrant évidemment des repas à faible coût. Ça devient des lieux de rencontre privilégiés pour les jeunes en quête de liberté, mais aussi pour les sorties en famille. Et c'est apparemment aussi à ce moment-là que les crèmeries se sont multipliées.
Ah ouais! C'est une bonne idée.
Et là, on nous parle enfin, dans les années 1960, de ce fameux nouveau mets qui fait son apparition sur les menus, la poutine, cette grande vedette alimentaire qui est venue en quelque sorte cristalliser le lien entre l'identité québécoise et les casse-croûtes. Donc, on ne sait plus des fèves au lard, mais c'est pas juste les hamburgers et les frites américains. Là, on a notre propre plat québécois.
Notre propre signature.
Voilà.
Est-ce que ça vient
dans la ville de Québec? Oui, c'est ça. Il y a toujours la guerre entre Drummondville et Victoriaville pour qui serait le premier, mais aussi Québec. Puisque à Québec, c'est Ashton, qui était le porte-étendard à partir de 1969, donc ça fait quand même longtemps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le restaurant Ashton, qui est maintenant une chaîne, en fait, mais à la base, c'était juste une petite roulotte sur le boulevard Amel à Québec.
Ah oui?
Oui, donc ça commence. Eux aussi, ils ont commencé par avoir un petit casse-croûte. Il y a évidemment certains établissements qui vont choisir d'ouvrir uniquement pour la période estivale, là où il y a plus d'achalandage. Ça permet aussi, évidemment, d'avoir un plus faible investissement pour financer les installations. Il y a aussi différents magasins comme la compagnie Paquette et Zellers qui commencent à offrir un comptoir lunch. Alors, c'est pas des casse-croûtes, mais c'est un peu inspiré de la même... du même objectif, donc d'offrir de l'alimentation. On parle aussi que les aires de repas, les fameux food courts, hein, ça aurait commencé dans cette période-là aussi pour permettre à la clientèle des centres commerciaux de magasiner plus longtemps.
Il faut que je vous arrête.
Ils n'ont pas besoin de retourner chez eux pour manger.
Il faut que je vous arrête parce qu'on n'a plus de temps.
Parfait.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Bon, il a fallu couper court un petit peu pour... Puis, on n'a pas eu le temps de s'inviter pour aller manger. Alors,
manger une bonne poutine ensemble, peut-être?
Oui, bien, il faudrait que ce soit une poutine pas salée dans mon cas, mais on peut arranger des choses, sûrement.
Une poutine maison, en ce moment-là, c'est toujours organisable.
Oui.
Mais oui, en fait, votre voix est très faible dans mes écouteurs. C'est pour ça que j'ai pas entendu vos petits avertissements. Mais donc, je voulais juste, en concluant, vous dire que si vous voulez retrouver l'article au complet, ainsi que la vaste bibliographie, le titre de l'article, c'est « Voici la brève histoire des casse-croûtes québécois ». Et donc, c'était publié le 22 juin 2025 sur le site du Journal de Québec. C'est ça, je voulais vous remercier beaucoup et en espérant qu'on va se reparler bientôt.
J'aimerais bien ça. Et on va lever notre chapeau aussi à Serge Bradet, qui normalement, on entend sa belle voix à ce moment-ci de l'émission. Il y a eu un petit problème de santé. Il s'est fait mal à une cheville, je pense.
C'est un accident de travail, pratiquement. Là, c'est en se rendant au travail.
Faire du bénévolat.
Oui, ça se rendant son bénévolat. Un accident de bénévolat.
Oui, c'est ça.
Ben oui, on va boire un milkshake à sa santé.
Ah ouais, grand plaisir. Alors, à une prochaine, Isabelle.
Au revoir.
Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour deux, éternité, ton visage. Une boue. Jamais douce comme mon secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. s'est retourné et la vie m'a soufflé ton visage. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage qui sont tête à coller comme un drapeau mouillé en retraite. Et je le redessine et le vent le ressouffle ton visage. Je suis capitaine d'un bateau de peine qui ne coulera jamais. J'ai deux fois la peine de son capitaine qui ne s'embarque plus. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage. Et je me saoule encore à jeun et à tribord. Quel voyage! Hier et c'était demain, demain sera toujours ton visage qui sont tête à coller comme un drapeau mouillé au retrait. Je le redessine et le vent le ressouffle ton visage. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage.
La voix unique de Thérèse Montcalm qui reprenait la chanson de Jean-Pierre Ferland, Ton visage.
Mm-hmm. Avec beaucoup d'énergie. Dans une nouvelle de dernière heure que je viens de voir sur la presse Plus, on parle du PDG de la Société d'assurance automobile du Québec, Éric Ducharme, qui avait été nommé en avril 2023 dans la foulée du fiasco de la SAA Click, a été congédié à cause de ce même scandale. L'information d'abord publiée par le Journal de Montréal ce matin a été confirmée de sources sûres à la presse. M. Ducharme, qui a été plusieurs fois écorché lors de témoignages entendus à la commission Galland, sera remplacé à court terme par la toute nouvelle vice-présidente au service aux assurés de la SAAQ, Mme Annie Lafond, qui a été nommée à ce poste en mars 2025. La décision a été prise par le gouvernement Legault avant même le dépôt du rapport du juge Galland attendu en décembre 2025. Rappelons que M. Ducharme avait été nommé par le gouvernement Legault en avril 2023 pour succéder à Denis Marsolais, limogé après le lancement catastrophique de la plateforme SAA Click. Le PDG a été plutôt malmené lors des audiences de la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques présidée par le juge Denis Galland, qui a siégé pendant 35 jours ce printemps. Des ex-vérificateurs de la SAAQ avaient notamment témoigné de son peu d'ouverture, voire son mécontentement, lors de la présentation de rapports montrant l'ampleur de la crise qui a secoué l'organisme en 2023. Et je continue avec une nouvelle que j'avais passée lundi, mais qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Ça s'appelle « La grogne contre les restrictions budgétaires en éducation ne s'essouffle pas ». C'est un texte de Lia Lévesque dans le devoir.ca de lundi. Ça disait que « La grogne contre les restrictions budgétaires en éducation ne s'essouffle pas ». Alors que la coalition s'agrandit et que la pétition sur le site de l'Assemblée nationale approche les 150 000 signatures. En fait, j'ai regardé juste avant l'émission et c'est 153 582 signatures. Et la date limite pour apporter sa signature, c'est le 15 septembre. De nouveaux groupes viennent de se joindre à la coalition, a annoncé lundi la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Il en est ainsi de l'Association des commissions scolaires anglophones, de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, de la Fédération québécoise de l'autisme et de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, entre autres. Des employeurs se retrouvent donc dans la même coalition que des syndicats qui représentent des enseignants, du personnel de soutien scolaire et des professionnels de l'éducation, en plus de parents d'enfants. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui ne s'est jamais fait, regrouper tout ce monde-là et d'envoyer un message « On ne peut pas tolérer les coupes en éducation », a lancé le président de la CSQ, Éric Gingras, en entrevue lundi. Même si le ministre de l'Éducation a demandé de toucher le moins possible aux services directs aux élèves, les acteurs du milieu estiment que cela sera impossible vu l'ampleur de la commande de Québec. Et c'est là que, pour notre auditoire, ça devient particulièrement intéressant. Les premiers touchés sont ceux qui n'ont pas cette espèce de plancher d'emploi-là. Et ça, ce sont par exemple les techniciennes en éducation spécialisée. On va leur retirer des heures. Le personnel qui s'occupe des élèves handicapés, que ce soit nos collègues psychoéducateurs, que ce soit nos collègues psychologues, ce sont eux des premiers touchés parce qu'on vient couper des heures. Et après ça, c'est tout le monde qui est touché. On touche au service de ceux qui en ont le plus besoin. Puis après ça, ce sont les autres parce qu'ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, ils perdent de la capacité d'intervention parce qu'il y a plus d'élèves auprès desquels il faut intervenir. Donc, à la fin, tout le monde est touché. À la fin de l'année scolaire, Québec a annoncé que le réseau devra réduire ses dépenses de l'ordre de 570 millions de dollars. Québec nie qu'il s'agit de véritables coupes, disant simplement ralentir le rythme de croissance du budget en éducation, qui augmentera de 5 % au lieu de 7 % lors des années précédentes. Par ailleurs, la pétition qui demande de ne pas procéder à des restrictions budgétaires en éducation, mise sur le site de l'Assemblée nationale le 23 juin, avait recueilli 149 000 signatures lundi. J'ai fait la mise à jour tantôt. Les intéressés ont jusqu'au 15 septembre pour la signer. Elle est parrainée par le député péquiste Pascal Bérubé, porte-parole de son parti pour les dossiers d'éducation et lui-même enseignant de formation.
Vous avez très certainement reconnu Twist et Chante.
Et Chante, oui.
Chanté par les Baronets.
On avait la traduction facile à cette époque-là. Hein?
Oui, assez large.
Assez large, pas mal. Et là, je pense que c'est une première à la radio de Canal M. On fait une entrevue avec quelqu'un qui se trouve à Marathon, en Ontario, sur le bord du lac Supérieur. Bonjour, Stéphane Hébert.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu?
Ah, ben, ça va super bien. Il fait beau soleil aujourd'hui, puis il fait beau et chaud. Ça va super bien rouler aujourd'hui, là.
Oui, mais j'écoute tes capsules depuis ton départ de Vancouver, depuis... Oui. Tu as commencé quoi, le 26 mai?
Le 26 mai, ouais. Oui.
Et je pense que, en général, dans la vie, tu es heureux, toi.
Ben, j'essaye, ouais. La vie est plus belle quand on est heureux, dans le fond.
Oui, 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 parce que ça commence toujours. C'est une belle journée aujourd'hui. Un peu frais, hein? Je sais pas si aujourd'hui c'est un peu frais. Nous, non, on a connu des canicules, mais toi, tu n'as pas eu l'air de connaître ça, hein?
Non, j'ai pas connu bien ça. C'est un petit peu plus frais au Canada, dans le Canada.
Oui, oui, oui. Alors, comment tu te sens après? Là, c'est quoi, une quarantaine de jours de vélo? J'ai vu que tu n'as pas pris beaucoup de pauses. Comment va ton derrière?
Ah, ça va bien. J'avais de la bonne crème pour me crémer, puis c'est ça, ça va correct. Là.
Ça va correct, ça?
Oui.
Et je pense que tu découvres des paysages assez des fantastiques.
Endroits
hein?
Magnifiques. Des endroits magnifiques que j'ai jamais vus, puis que c'est comme « wow », puis que j'aime ça faire découvrir... tous ceux qui me suivent sur Facebook, Stéphane Vancouver-Montréal.
Oui, oui, c'est ça. Ça vaut la peine. Tu fais vraiment un bon travail parce qu'on a des capsules deux ou trois fois par jour.
Oui, bien, j'essaie de publier le plus possible qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je vis. Là.
Mm-hmm.
Ben, ouais.
Et tu avais comme but de sensibiliser les Canadiens, oui, aux dons d'organes. Oui, oui. Comment tu vois ton apport jusqu'à présent dans ce parcours?
Bien, je vois que beaucoup de Canada, ils ont de la misère. Il n'y a pas assez de publicité pour la transplantation d'organes.
Oui.
Et le monde ne sont pas beaucoup au courant. Puis dans le Canada, c'est pas comme au Québec. Au Québec, on a juste à signer notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie ou notre permis de conduire.
Oui, oui.
Un petit autocollant. Mais dans le Canada, c'est faut aller sur Internet, sur un site en particulier, puis s'inscrire. Puis à chaque... dans le BC, c'est un site. Dans le... En Alberta, c'est un autre site. Toutes les provinces, c'est un site différent.
Donc, il y a une action particulière à prendre.
Oui, c'est ça. Puis la plupart du monde que je croise dans mon chemin, bien, ils ne sont pas au courant. Fait que j'essaie de les mettre au courant le plus possible.
Mm-hmm. Est-ce que ton anglais s'est amélioré beaucoup depuis le début?
Ah ben oui, c'est beaucoup mieux que c'était. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi.
Ah, bravo, bravo, bravo. Tu avais donné un rein il y a quelques années à une amie.
Oui, j'ai donné mon ami Joël.
Mm-hmm. Qui va très bien aujourd'hui, qui fonctionne très bien.
Oui.
Une partie de ton parcours, une partie de ton projet, c'était de, entre autres, démontrer que malgré qu'on a un seul rein, on peut faire des choses vraiment fantastiques. Ça, ouais. Je pense que tu as démontré ça de façon très claire.
Ben oui, j'espère. De toute façon, je suis encore tout en forme, puis j'ai aucune faiblesse, puis j'ai quasiment le trois quarts de mon parcours de fait, là.
Oui, 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 oui. Tu parles, puis ça, je l'ai un petit peu manqué quand je suivais ton parcours. Tu parles de battre un record Guinness, puis tu as mentionné à plusieurs endroits à travers le Canada que tu es allé voir au poste de police pour faire signer un document. Puis là, je peux pas en dire plus parce que je le sais pas, c'est quoi?
OK, ben oui, c'est ça. Mon cousin, il m'aurait inscrit pour le record Guinness parce que vu que j'ai juste un rein, puis que je fais 4760 km, un grand parcours, ben il dit que ça devrait être inscrit dans le record Guinness. Fait que je dis, bagarre, on va l'essayer. Puis là, je suis en train pour dans tout mon parcours jusqu'à Montréal.
Mm-hmm.
Puis après, je vais poser ça au record Guinness, voir si ça va être accepté.
Ah, bon ben, Dieu. Ouais. OK. Fait que je pourrais peut-être me vanter d'avoir parlé à quelqu'un qui a un record Guinness.
Peut-être, ouais. On a déposé le toutes mes signatures du record Guinness. Là.
Voilà. Ben, je t'encourage. Continue. Parle-nous. J'ai semblé comprendre que dans les derniers jours, tu t'es mis à rencontrer de plus en plus de gens. Parle-nous donc de tes rencontres dans ton parcours.
Des rencontres super géniales. J'ai rencontré, ben, où est-ce que j'ai dormi, c'est pas hier, avant-hier. J'ai rencontré des gens magnifiques. On a jasé, on a attendu jusqu'à leur noirceur, on a vu les étoiles ensemble. Le ciel était vraiment parfait pour ça. Parce que la plupart du temps, le ciel était toujours nuagé, plein de nuages. Fait que, donc, c'était vraiment génial. Puis on a parlé de toutes les sortes de toutes nos aventures qu'on a faites ensemble. Puis j'ai même rencontré une personne que sa mère avait été. Elle avait eu un don d'organes vendredi passé.
Oh! OK.
Puis elle m'a suivi sur Facebook. Mm-hmm. Puis là, elle a vu où j'étais. Mon cousin avait parlé avec, par Internet, avec Facebook. Là.
Oui, oui, oui.
Elle est venue me rejoindre sur mon. Ben, elle a monté à Vancouver pour. Je pense qu'elle est troqueuse.
Ah oui?
Elle m'a monté à Vancouver avec mon camion. Puis elle m'a vu sur le chemin, elle a arrêté, elle a reviré de bord, puis elle m'a attendu sur un coin de rue, puis elle m'a arrêté pour me donner 100$ pour m'encourager. J'ai trouvé ça vraiment génial, c'est comme une vraie belle pensée, là.
Mm-hmm.
Puis le bon soutien que j'ai eu, c'est comme, je revenais pas, c'était vraiment wow, là.
Fantastique. Et je rappelle à nos auditeurs que tu, depuis Calgary, tu traînes... traînes ta tente avec une remorque, tu traînes ta nourriture, tout ça, et oui. Que tu es un peu allergique au train, je pense.
Je ne suis pas allergique. Le sifflement du train à chaque intersection, disons que ça m'empêche de dormir beaucoup.
Oui,
j'en fais une dans mes petites chroniques que je fais, j'en le mentionne comme il faut.
Alors aujourd'hui, tu t'en vas vers White River, donc tu as une journée d'à peu près 96 km. Tu as dû en faire quelques-uns depuis le début de la journée, j'imagine?
Non, aujourd'hui, je n'ai pas fait du tout. J'ai attendu.
Tu m'as attendu?
Je suis parti de Mérite.
Mm-hmm.
J'ai checké ça. En partant de Mérite, le signal va couper.
Ah oui, oui. Je comprends. Je comprends.
Il ne faut pas que je manque de signal.
C'est très, très gentil de ta part. Alors, puis tu vas passer par une place qui s'appelle Wawa, ou tu as passé à une place qui s'appelle Wawa?
Après demain, je vais passer. Je m'en vais à Wawa.
Oui.
On va être 200 km.
D'accord.
Puis là, je n'aurai aucun réseau. Puis je n'aurai pas de réseau, puis je n'aurai pas de ravitaillement non plus. Fait qu'aujourd'hui, on va me ravitailler en eau. Ben là, j'ai assez d'eau.
Mm-hmm.
Là, je me suis pris de la nourriture pour que je puisse faire au moins deux jours de route qu'on ne s'est pas obligé de dépendre de quoi que ce soit. Là.
Sans soutien. Comment tu vois la dernière partie de ton périple?
Ça va super bien aller. Puis ça va être super sympathique aussi de revoir les gens de Montréal. Puis j'ai hâte de conduire une voiture.
Oui, d'accord, OK.
Ouais.
J'imagine que quand tu vas arriver vers Ottawa, il va y avoir beaucoup de Français autour de toi, un peu plus de Français autour de toi.
Oui, moi, je passe à Gatineau. Je vais à Gatineau, puis je passe par le côté de Gatineau du Québec.
Oui, oui, OK.
Puis j'ai un ami à Gatineau qui va venir me rejoindre, puis peut-être avec plusieurs personnes qui vont venir quelques personnes qui vont venir me rejoindre environ 100 km avant d'arriver chez eux. Fait que là, on va rouler ensemble.
Mm-hmm.
Fait que on va se faire un beau peloton pour que ça soit le fun. Là.
Puis ton voyage se termine à Montréal?
Oui, à Montréal, au parc sur la rue Sherbrooke.
Au parc Maisonneuve?
Un parc Maisonneuve, c'est ça.
OK.
Okay. Papineau, là.
Oui, oui. Papineau, non, c'est le parc La Fontaine. C'est juste à côté de chez nous, à côté du poste de radio.
OK. Ah, ben c'est bien, ça.
Alors, je vais continuer à suivre ça sur Facebook. Et si je suis dans les environs, tu vas me voir la binette, je pense.
Ah, ben c'est parfait, ça. Puis en même temps, c'est vrai, j'ai des amis cyclistes la maison des greffés.
Oui.
Ils vont rouler, qui me disent qu'ils veulent venir, qu'ils veulent que je les avertisse, mais je suis rendu plus à Laval pour qu'on fasse un beau peloton pour rentrer à Montréal au parc. Là.
D'ailleurs, tu m'ouvres la porte pour dire que le défi de la maison des greffés commence demain?
Oui, demain. Oh. Demain matin pour Belle-Oeil, je pense. Belle-Oeil, Québec.
Oui, c'est ça. La prévision de température pour demain, c'est un peu... C'est un peu pluvieux, mais vendredi, ça devrait très bien aller.
OK.
Ça fut... Mais,
Même s'il pleut ou qu'il fasse quoi que ce soit, ben, pour les ceux qui reçoivent, qui attendent un don d'organes, ben, c'est toutes les températures, ça ne dérange pas. Il faut qu'ils attendent à Noé.
Oui, c'est ça. Je pense que tu es un très, très bon porte-parole dans tes capsules. Tu reviens avec cette idée-là très souvent, que malgré le vent des fois ou malgré... tu as eu une grosse pluie à un moment donné.
Oui, j'ai eu beaucoup de vent aussi de face, qui m'a même permis d'avoir un petit... le vent m'a apporté puis m'a fait tomber par terre en roulant. C'est ça, là.
Alors, moi, j'invite les gens à te suivre sur Facebook. C'est Stéphane Vancouver Montréal. D'abord, juste pour ton aventure, ça vaut la peine. Pour ton optimisme, ça vaut la peine aussi. Puis en bonnie, ben, on découvre une partie du Canada. C'est pas rien quand même.
Parfait. Ça. Puis en même temps, ben, j'invite le monde à donner généreusement pour la maison des greffés. Une belle maison pour accueillir les gens qui sont en attente d'une greffe.
Oui.
Avant greffe et après greffe.
Exactement.
Ou ça, c'est une modification de 35 $ par jour, logée, nourrie pour une personne qui vient à la maison des greffés.
Oui, et puis c'est extrêmement important. Ça rassure tellement les gens qui sont de l'extérieur de Montréal d'avoir cet endroit-là. Parce que s'il y a un organe qui devient disponible, ben, ils sont juste là, juste à côté, avec toutes les ressources autour.
Ouais, avec toutes les ressources de l'hôpital puis de toutes les affaires, c'est vraiment génial.
Un gros merci, Stéphane, puis bon vent, bonne route jusqu'à Montréal, puis moi, je continue à te suivre.
Ben, c'est parfait, je te remercie, puis profitez du beau temps.
Merci, bye.
Merci, ciao.
Justement, j'ai une paractualité de Sudbury. Alors, notre ami Stéphane doit être dans ce coin-là un petit peu. C'est un article de Venant Nishmi-Oumouroua qui est publié sur radiocanada.ca le 7. La semaine de la fierté à Sudbury a débuté lundi par une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel de ville du Grand Sudbury, suivi du lever du drapeau de la fierté. La semaine sera notamment consacrée aux discussions sur l'engagement de la communauté envers l'égalité et l'inclusion. Selon la députée de Nickel Belt, France Gélina, il y a encore beaucoup de discrimination contre les gens qui s'identifient comme le LGBT+, mais cette semaine doit aussi être l'occasion de reconnaître et d'apprécier le progrès réalisé. Si on voit la situation qui prévalait il y a 40 ans, il y a eu tellement de progrès qu'il faut célébrer. Mais je pense qu'il faut célébrer en n'oubliant pas qu'il y a encore des progrès à faire. On fait une dernière pause à cette émission d'aujourd'hui et au retour, on retrouve Francine Forget avec une chronique techno.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal. Qui fuit, tu donnes son à ma vie. Et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ. Là où je suis partie, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la Seine et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines, que mon vibe coule dans les tiennes. Femme, t'es belle et quand tu chantes, t'es sexy. Flash sur elle, rockstar baby. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, hey. Complice, on leur donne un bon son live. Soulmate, à la Diddy, Mary J, Blige, glamorous. Ton style et ton charme, t'es fabulous. Un délice pour un mec à dame, baby, baby. Si tu savais comme je t'aime, baby, baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Plus tu chantes, plus je glisse sur la pente, je perds la tête. Deux vies, deux voix qui se rencontrent. Deux histoires qui se racontent. Une chanson pour le dire. Y'a les mots, les images pour le décrire. Une belle rencontre à l'ancienne, prends un flash. Y'a de la magie sur scène, le rideau tombe, c'est terminé. Une belle collabo, des mots sur une feuille pour s'en rappeler. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta show, ton rock and roll. Je veux une femme like you, un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, hey.
Cœur de pirate qui reprenait la chanson Femme like you.
Avec tellement de brio. Merci beaucoup pour ce choix. Voilà! Alors, quand j'ai préparé ma semaine, il y avait comme un petit astérisque particulier sur le mercredi. Parce que...
Arrêtez donc, vous!
Ah oui! Parce que là, j'étais...
Quel honneur!
J'étais un petit peu dans mes pantoufles avec une chronique avec Francine Forget et la techno.
Je me sentais aussi dans mes pantoufles en la préparant. J'ai réalisé ce matin, parce que je reviens de vacances, et j'ai réalisé ce matin que j'avais même pas chronométré. Puis là, j'ai dit, même quand c'est chronométré, ça va mal. Fait que je serais mieux de repartir mon affaire. Alors, je me suis basée sur un petit 10 minutes, mais avant, Yvan, vous êtes en forme? Ça va bien?
Ça va très, très bien. Vraiment bien.
Bon.
Oui.
Bon.
Puis on a des on a des très belles journées hier et aujourd'hui. Alors... C'est un bon temps pour être dehors et respirer.
Oui, c'est ça. Puis vous partez en vacances bientôt.
Oui, ben bientôt, dans un mois.
Dans un mois. Mi-août. Ben vous allez être en vacances de Canalem bientôt.
De Canalem bientôt, malheureusement, parce que je passe une très belle semaine. Mais une petite vacance. Oui.
Alors donc, parlons vacances.
Oui.
Quand on s'est parlé un peu plus tôt dans le mois, on a justement dit que ça serait peut-être intéressant de parler techno-vacances. Et c'est un sujet qui est très, très à propos parce que maintenant, là, on considère le « on » excluant la personne qui parle, mais je pense que c'est vrai. On doit l'admettre qu'on est rendu là, que dans notre liste de besoins que je qualifierais d'essentiel, il y a évidemment un boulet équipement ou en tout cas éléments technologiques quand on part en vacances. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, on est tous un peu addicts à notre manière. Il faut se débrancher. Moi, je pense qu'il faut se débrancher, mais c'est impossible, je pense, à moins qu'on aille dans le bois, comme on dit, puis qu'on se retire complètement de la civilisation, et même encore, de ne pas avoir aucun outil technologique pendant nos vacances. Pourquoi? Parce que, bon, c'est sûr, on a fait une petite planification, ou encore, on n'en a pas fait du tout, et on veut s'organiser. Alors ça, c'est la première chose. Ça nous prend un planificateur, un organisateur, ça nous prend en tout cas un petit aide-mémoire pour nous aider à faire de belles vacances. Mm-hmm. Ensuite, bien, si on s'est un petit peu planifié avant de partir et qu'on est sur la route, notre itinéraire, on trouve qu'il est intéressant. Ensuite, mais il y a tous les au cas où, hein. On ne le sait jamais, qu'est-ce qui peut arriver.
Tout à fait.
Et aussi, ben, on veut prendre des photos. On veut. Alors, bref, on n'est pas capable de partir sans au moins un équipement qui est notre téléphone.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand on évalue nos besoins, là, on en arrive pas mal à ça.
Oui, puis vous et moi, on a déjà connu une époque où on pouvait communiquer avec nos proches par un téléphone qu'on pouvait trouver seulement dans des boîtes téléphoniques ou dans des, des cabines téléphoniques plutôt, ou dans un hôtel ou quelque chose du genre. Fait que c'est une autre, réalité.
Oui, c'est ça. Alors donc, ben je vous invite à prendre la route. Ben on va continuer, on va commencer par le Québec. Hein? Le Québec, on est peut-être en camping. Je parlerai pas, je veux dire, d'un voyage Québec avec un logement où on est à l'abri dans un hôtel ou encore une maison qu'on a réservée, parce que ça, en général, c'est assez facile. Pour le camping, cependant, faut se rappeler qu'il n'y a pas toujours des sites qui sont prêts à accueillir, qui sont prêts à accueillir notre technologie, je vais dire ça comme ça. Alors donc, je dirais que la première chose, ce qui est recommandé, c'est vraiment d'appeler au terrain de camping pour savoir s'il y a une certaine, en tout cas, il y a au moins une alimentation électrique sur le site qu'on aura, ou encore s'il y a d'autres services qui sont fournis. Mais par ailleurs, la meilleure chose, évidemment, pour ce qui est camping plein air, c'est d'être bien équipé en charge. Donc, à ce moment-là, on ne devrait pas se retrouver dans une situation où s'il n'y a pas de réseau, donc notre réseau habituel n'est pas accessible. Alors, je parle ici, évidemment, des fournisseurs de services. Mm-hmm. J'ai pas besoin de les énumérer, on les reconnaît tous. Mais qu'il y a quand même une disponibilité du Wi-Fi, ça nous prend une bonne charge et il faut s'assurer qu'on l'a toujours avec soi. Donc, on peut, si on est vraiment insécure ou si on s'en va loin, il y a des outils maintenant qui existent et ça, c'est facile à trouver dans les Canadian Tire, les Future Shops, ça existe ça encore. Moi, je trouve mêlé un peu bureau en gros et toutes ces choses-là.
Oui,
c'est ça. Alors, donc, des chargeurs solaires ou encore des chargeurs portables USB, mais aussi une batterie extérieure, mais aussi on peut brancher dans notre voiture. Hein. Faut pas oublier dans la voiture, quand on roule, on peut rester branché. Et là, je ne cesse de vous répéter dans des chroniques, que, même s'il y a toujours des sceptiques qui disent « j'ai jamais entendu parler de cette affaire-là », que la recommandation des équipementiers qui fabriquent des téléphones, c'est de charger sa batterie à 80-85%.
Exact.
Bon. Alors, c'est ce qu'on nous dit pour la protéger le plus longtemps. Et je le répète encore, c'est toujours la norme. Moi, je viens de changer mon téléphone et on me recommande 85%. Bon, maintenant, si on a beaucoup de besoins, ça se peut qu'on vous dise, ben, c'est à 90-92%. Mais dans le cas des vacances, je dis, arrêtez votre petit curseur qui indique 80 ou 85%. Et laissez-le aller jusqu'à 100 %. Fait comme ça, pendant vos vacances, bien, vous allez avoir un téléphone pleinement chargé. Et après ça, bien, vous le remettrez en revenant selon vos besoins à ce qui est recommandé pour votre appareil. C'est la première chose. La deuxième chose, en camping, souvent, on oublie d'utiliser le airplane mode. Et le airplane mode, ce qu'il permet, c'est qu'il bloque vos messages. Donc, vous avez un contrôle sur votre appareil.
Oui.
À peu près total. Et l'énergie ne passe pas à peut-être des amis Facebook ou des messages. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, mais disons qu'il y a d'autres choses à faire.
Puis
en même temps, mais ça altère un petit peu la force de votre batterie. Alors, c'est une petite recommandation comme ça. Pour les voyages au Canada ou à l'étranger, si ce n'est pas déjà inclus, alors donc, il faut bien vérifier. Il y a beaucoup maintenant de forfaits Canada-USA. Comme on les appelle.
Oui.
Et à ce moment-là, on se préoccupe de rien et on utilise notre téléphone comme à l'habitude. Et si on est en camping, ben les mêmes recommandations que celles que je viens de vous faire. Cependant, J'insiste ici sur de bien vérifier que votre forfait le comprend, parce que là, il y a une petite mode. Vous savez, maintenant, les appareils photos sont les appareils téléphones sont très chers. Alors, ça nous fait des forfaits assez élevés par mois quand on vient pour changer notre téléphone. La location du téléphone plus les forfaits qui ont diminué, mais le téléphone est tellement cher que ça augmente beaucoup. Alors donc, il faut vérifier parce qu'il y a certains maintenant qui offrent des téléphones pas chers, vraiment pas chers, genre des 10-20 $ par mois de location, plus le plan. Alors, c'est ridicule le prix que vous payez, mais il faut voir le plan que vous avez. Et généralement, ça n'inclut pas le volet Canada-USA.
Oui, oui, oui.
Alors, pour savoir qu'est-ce qui est le mieux, ben c'est toujours le plan HOB. Hein. On se rappelle que le plan HOB, c'est une référence pour savoir quel forfait téléphonique est le meilleur. Alors, plan HOB, en deux mots, H-U-B. Mm-hmm. Alors, vous le retrouvez. Là, on n'a pas besoin de donner l'adresse au complet.
Pas du tout.
Alors, vous me suivez toujours, Yvan?
Ah, oui, 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 je suis tout à vous.
Bon, alors, vous êtes tout à moi. Mmh. Alors, comme vous êtes tout à moi, je vous emmène à l'étranger.
Oui.
Alors, peut-être que vous allez prendre l'avion, comme plusieurs, pour vous envoyer, pour aller vers l'Europe,
vers les vieux
ou encore
pays.
L'Amérique du Sud, l'Asie. Mmh. Alors, bref, on s'en va plus loin que la proximité nord-américaine. Est-ce qu'on doit s'acheter un nouveau téléphone pas cher pour que les contrôles à la douane, vous savez, on en avait parlé, hein, quand on fait les contrôles à la douane maintenant avec les nouveaux équipements de vérification, quand on passe les contrôles pour aller prendre un avion, ben ils voient exactement tout ce qu'on a dans notre appareil, puis on n'a pas besoin de l'allumer pour ça. Et on avait parlé, est-ce qu'on doit acheter un nouveau téléphone ou pas? Mais si on achète un nouveau téléphone, il faut être conscient qu'on n'aura pas toutes nos données avec nous et que dans le pays où on s'en va, il faudra s'acheter une carte SIM à l'arrivée pour pouvoir utiliser ce téléphone-là. Mm-hmm. L'avantage d'avoir un nouveau téléphone comme ça, mis à part là, les mesures de sécurité pour nous rassurer, si on est un petit peu, je dirais pas parano, mais en tout cas, ça nous inquiète un peu de ce côté-là, particulièrement si on va aux États-Unis. Alors, l'avantage, c'est que quand vous arrivez là-bas, vous pouvez utiliser le téléphone comme un téléphone. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez appeler quand vous voulez pour faire des réservations, pour vous réserver dans un musée ou quoi que ce soit, sans passer par l'Internet, mais tout simplement par le bon vieux téléphone.
Ah, un téléphone qui fait du téléphone, toi.
Pardon?
Un téléphone qui sert de téléphone.
Un téléphone qui sert de téléphone, ce qui est rare de nos jours, hein, quand même, mais qui sert qu'à un téléphone. Mm-hmm. Maintenant, et c'est sûr que quand on va quelque part, généralement maintenant, on prend la eSIM.
Oui.
Si vous cherchez la carte, la petite carte eSIM, vous ne la trouverez pas puisqu'elle est virtuelle. Et certains modèles, je vous le dis, les nouveaux modèles, il y a le iSIM qui appelle, donc c'est une carte eSIM qui est intégrée dans votre appareil et que vous n'avez qu'à activer. Cependant, ce n'est pas une bonne idée parce que généralement, les fournisseurs de services, donc ceux qui vous donnent l'accès vraiment à des fonctions dans votre téléphone, alors eux, ils vont vous charger à peu près le même prix que quand on vous offrait une offre exceptionnelle, entre guillemets, avec beaucoup d'ironie, pour aller quelque part et que ça vous coûtait comme 10-15 $ par jour. C'est à peu près le prix que vous payez si vous activez cette carte. Cependant, moi, je vous recommande de prendre une eSIM. Vous allez sur simbud.com, S-I-M-B-U-D. Et là, vous avez tous les comparateurs des principales destinations. Alors, vous pouvez voir, par exemple, si vous allez au Mexique, vous devriez prendre telle compagnie plutôt qu'une autre. Au Japon, en Europe, etc., etc. Donc, vous avez les fournisseurs. Vous voyez qu'est-ce qu'ils vous offrent, combien ça vous coûte. Et aussi, ben, quelques mesures d'activation, quoique ça nécessite toujours, je dirais, c'est assez propre pour en avoir utilisé plusieurs. C'est assez propre, je vous dirais, aux fournisseurs de cartes SIM. Alors, c'est pas mal le voyage que je vous invite à faire.
Mm-hmm.
C'est sûr que, ben, mais quand vous voulez, là, moi, vous savez, je suis pas mal. Je suis prête, là, cet été.
Ouais,
je suis très disponible. très disponible. Bon, c'est sûr que là, il y en a qui disent, mais c'est pas suffisant. Alors, il y a des sites qui vous recommandent des petites choses comme, vous savez, les petits suivis GPS pour les bagages, hein, pour ne pas perdre son bagage.
Ah oui, ça devient plus utile.
Oui, ouais, c'est ça. C'est généralement, c'est cher, par exemple, ces choses. Alors, donc, il faut vraiment être sûr qu'il y a un besoin là. Si vous avez très peu de bagages, on dit toujours qu'il faut voyager léger. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessaire. Il y a aussi, évidemment, si vous aimez la lecture, vous en allez sur le bord de la mer et que vous ne voulez pas traîner, je ne sais pas moi, 10 livres et que le livre audio vous intéresse moins. Moi, je pense que c'est la deuxième option, ce n'est pas la troisième. Mais en tout cas, il y en a qui pensent encore que la liseuse, ça peut être la deuxième option. Alors, faut se munir d'une liseuse si on n'en a pas, ou apporter sa tablette. Mais mon Dieu, que ce n'est pas une bonne idée, parce qu'avec la tablette, ça veut dire qu'on est toujours branché sur l'actualité.
Oui, oui, oui.
Et ben, c'est ça. Et enfin, ben, y en a qui ont besoin d'écouteurs. Écouteurs parce que faut noyer le bruit. On a de la difficulté à s'endormir autrement. Ou encore, ben, y a de la musique qu'on veut écouter, qu'on aura téléchargée avant de partir. Alors, avec tout ça, vous devriez faire un voyage pas pire, mais moi, je vous dis, téléphone, vous avez tout là-dessus. Le GPS, les photos, tout ce que vous voulez.
Oui, puis il faut juste faire attention. J'ai fait une randonnée dernièrement dans l'Anaudière, dans un endroit où le signal cellulaire ne rentrait pas. Alors, dites donc à des gens que vous aimez que vous allez faire une randonnée quelque part, d'un coup qu'il arrive quelque chose.
Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'endroits où on doit s'inscrire avant de rentrer dans la zone. Mais malheureusement, ici, je dois le dire, ce qui est très coutumier, je ne sais pas, moi, par exemple, dans le Canada, dans les Grandes Rocheuses ou encore en Europe, là, dans des sommets qui sont importants. Mais ici, souvent, quand c'est des randonnées de simple ou en tout cas de moyenne difficulté, c'est pas le genre de choses qu'on fait et on devrait toujours le faire.
Oui.
Ne serait-ce que pour la faune aussi, hein? Parce que vous savez qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant.
Oui, c'est vrai. Avec le réchauffement, il arrive des affaires qu'on ne voyait plus.
Ben, c'est qu'il y a il y a souvent des animaux perdus, hein. Moi, je peux vous dire que je suis en forêt souvent, et puis il y a des animaux qu'on voit qu'on ne voyait pas avant.
Il faut que je vous arrête. Ça m'arrive des fois en animant des émissions qu'il faut que je vous arrête.
Arrêtez donc, vous.
Oui, oui, ça arrive parfois.
Bon.
Alors, grand merci pour toutes ces informations et je vous souhaite de pouvoir les utiliser bientôt.
Je les ai déjà utilisés, Yvan. Je vous remercie. Et moi, je vais vous remettre l'appareil parce que je sais que peut-être vous ne l'avez pas encore utilisé.
C'est ça. Alors, au plaisir de se revoir.
Bien oui, à bientôt.
Bye.
Palmier, une chanson de Beau-Dommage, mais ici chantée par Fanny Bloom.
Ah, j'adore ce jeu des reprises.
C'est très, très amusant, effectivement.
On fait des belles découvertes. Pour terminer cette émission, je fais quelques par actualité. Les Jeux de la francophonie canadienne vont avoir lieu du 15 au 19 juillet à Laval. Et Laval agit pour valoriser la langue française et en faire un moteur d'inclusion. C'est un texte qui était sur le site l'initiative.ca du 7 juillet. À quelques jours des Jeux de la francophonie canadienne qui se tiendront sur le territoire de Laval du 15 au 19 juillet, Laval réaffirme son engagement envers la langue française. La ville déposera demain, lors du conseil municipal, un rapport citoyen inédit sur l'état du français à Laval, fruit des travaux de son comité consultatif ad hoc sur la langue française. Elle adoptera également cet été une nouvelle directive interne visant à banaliser l'utilisation d'une autre langue que le français. Des actions déjà en cours, en cohérence avec les recommandations du comité Laval, se distinguent comme l'une des rares municipalités québécoises à avoir mis sur pied un comité citoyen entièrement consacré à la langue française. Les recommandations de celui-ci s'articulent autour de 7 axes, dont l'exemplarité linguistique de l'administration, la valorisation du français dans l'espace public, l'accès à des activités culturelles en français et une meilleure communication avec les entreprises et les personnes nouvellement arrivées. La Ville de Laval prend acte des recommandations du comité et se réjouit que plusieurs d'entre elles trouvent déjà écho dans des initiatives mises en place. Parmi celles-ci, notons la remise d'une trousse d'accueil en français aux personnes nouvellement arrivées, la diffusion de musique francophone dans tous les espaces municipaux, ainsi que le développement d'une stratégie de contenu en français sur TikTok pour mieux rejoindre les jeunes. Une étude est également en cours pour bonifier les communications avec les groupes communautaires et une démarche d'écriture inclusive accessible a été complétée par la Ville afin de favoriser une meilleure compréhension du français sur le web. Le portrait de la situation de la langue française à Laval, réalisé par le comité ad hoc sur la langue française, met en lumière le contexte particulier de la ville, qui se distingue par une forte croissance démographique et une importante population immigrante. Près de un tiers de la population lavalloise détient un statut d'immigrant, ce qui en fait l'une des villes québécoises où l'immigration récente est la plus marquée. Si 92% de la population lavalloise est en mesure de soutenir une conversation en français, cette proposition était de 95% en 2001. Entre 2001 et 2021, la proportion de la population qui parle français au moins régulièrement au travail est passée de 94% à 91%. Dans ce contexte, le défi est de taille, mais aussi porteur de sens. Le comité plaide pour une approche du français comme langue inclusive et rassembleuse, une vision que l'administration municipale partage et entend concrétiser en poursuivant ses efforts, main dans la main avec la société civile, les institutions publiques et les autres paliers de gouvernement. Conformément à la modernisation de la langue de la Charte de la langue française pour laquelle Laval a fait preuve d'exemplarité depuis le 1er juin 2023, la Ville déposera cet été une directive particulière précisant les situations exceptionnelles dans lesquelles une autre langue peut être utilisée par l'administration municipale. Celle-ci concerne notamment la sécurité et la santé publique, la justice naturelle, l'accueil des personnes immigrantes récemment arrivées ou encore les communications avec des groupes précis, comme les Autochtones et les personnes admissibles à l'éducation en anglais. Cette directive, à l'attention des membres du personnel, renforcera le devoir d'exemplarité de l'administration tout en permettant une meilleure compréhension des exemptions prévues par la loi. Les Jeux de la francophonie célébrer notre langue ensemble du 15 au 19 juillet. Laval accueillera des centaines de jeunes d'expression française en provenance de partout au pays dans le cadre des Jeux de la francophonie canadienne. Cet événement phare sera l'occasion pour la ville de célébrer la langue française dans toute sa diversité et de démontrer son engagement à la faire rayonner. La population est chaleureusement invitée à prendre part aux festivités. Et c'est ainsi que se termine cette émission pour aujourd'hui. Mais je veux remercier chaleureusement Mathieu Tessier, Isabelle Falardeau et évidemment Francine Forget pour leur chronique. Et un petit coup de chapeau à Stéphane, Hébert, oui, Stéphane Hébert, merci. Pour sa chronique en provenance du bord du Lac-Ontario supérieur. Et on se retrouve demain matin à 9h30.